En famille,
avec Jésus, vivons la miséricorde. Deuxième étape, la grande famille humaine, bénie par le Père, appelée à faire miséricorde comme le Père fait miséricorde. Souvenons-nous des lignes de ce premier chapitre de la Genèse, qui nous présente la création de l'homme. Genèse 1, 26-28. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine, au pluriel, sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Nous avons vu que lorsque Dieu dit « Faisons l'homme », le premier sens de ce mot « homme », Adam en hébreu, est « l'humanité ». Et l'auteur poursuit en évoquant l'Adam mâle et l'Adam femelle. En écrivant ainsi, il présente l'humanité comme une immense famille humaine d'une incroyable diversité, ce qui fait toute sa richesse. Et tous ses membres, hommes ou femmes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient, sont tous strictement égaux entre eux, en droit et en devoir, la terre étant donnée à tous de manière égale. Et nous l'avons remarqué, l'homme est invité à dominer toutes les créatures, poissons de la mer, oiseaux du ciel, animaux sur la terre, à l'exception d'une seule, l'homme. Interdiction à l'homme de dominer l'homme. Et notamment, interdiction à l'homme mâle de dominer l'homme femelle, et réciproquement. Tous sont ainsi différents les uns des autres. Tous sont appelés à vivre en relation les uns avec les autres, dans le respect, l'amour et la droiture. Et cette incroyable diversité est synonyme de richesse dans toutes nos relations, et de source de vie sur tous les plans, puisque déjà, au niveau le plus fondamental, toute vie nouvelle ne peut que surgir de l'union des différences entre l'homme et la femme. Nous avons donc vu que le premier sens du texte est cette humanité, cette famille humaine, créée à l'image et ressemblance du Dieu un, pour être elle aussi, comme le sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit de toute éternité, unis les uns aux autres dans la communion d'un même esprit, d'une même vie, d'une même lumière, d'un même amour. Mais l'expression « image et ressemblance » s'applique également à chaque homme en tant qu'individu. Chacun est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et là encore, nous le verrons plus tard, le Nouveau Testament nous permettra de préciser la perspective. Le mot « image » souligne la proximité avec Dieu, tandis que celui de « ressemblance » marque bien au contraire la distance. Proximité unique, mais aussi distance. L'homme n'est pas Dieu. Il est une créature posée dans l'existence, en face à face avec Dieu et avec tous ses frères et sœurs en humanité. Mais ce qui fait toute sa dignité, toute sa beauté, est bien qu'il est la seule créature à l'image et ressemblance de Dieu. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il sera clairement indiqué par la suite qu'il est interdit à l'homme de verser le sang de l'homme. Car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Remarquons aussi que cette expression « image et ressemblance » disparaîtra du livre de la Genèse pendant 4 chapitres, pour réapparaître seulement dans le récit de la descendance d'Adam. Genèse 5, 3. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et il lui donna le nom de Seth. L'expression « image et ressemblance » est donc caractéristique de la relation unique qui existe entre un père et ses enfants. Dire que Dieu crée l'homme à son image et ressemblance, c'est donc affirmer dès la première page de la Bible que Dieu est le père de tout homme. Et dès qu'un homme est créé, Dieu le bénit et Dieu lui dit. Tout homme est donc béni par Dieu, qu'il en soit conscient ou pas. Et nous avons tous été créés pour vivre la relation avec Dieu, pour l'écouter, le comprendre, lui répondre. D'où l'importance de la place que nous devrions accorder à la parole de Dieu dans nos vies. Quand nous l'écoutons, notre vocation s'accomplit. Et quelle est-elle ? Que nous soyons pleinement, par notre réponse libre et consciente, ce que nous sommes déjà aux yeux de notre Dieu et Père, ses enfants. Toute la mission du Christ consistera à faire en sorte qu'il en soit bien ainsi. En Jean 1, 12, Saint Jean écrit « À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » Et qui est le Christ ? Il est le Verbe fait chair, la parole de Dieu fait chair, la parole du Père fait chair. L'écouter, c'est trouver avec lui la plénitude de la vie éternelle. « Tu as les paroles de la vie éternelle », lui a dit un jour saint Pierre. Et toute son œuvre de bon pasteur consistera à nous inviter à nous retourner de tout cœur vers le Père, pour revenir avec lui et grâce à lui dans la maison du Père. Alors nous pourrons tous lui dire pleinement « Notre Père ». Dieu, Père et Créateur de tout homme, ne cesse donc de bénir tout homme, c'est-à-dire de lui donner le meilleur pour la vie, pour sa vie. Mais pour recevoir ce don de Dieu, encore faut-il accepter de se retourner vers lui. Nous l'avons vu, telle est la mission du Christ Sauveur, mais telle était déjà la mission donnée à Abraham, cet homme qui avait accepté d'entendre l'appel de Dieu, qui s'était tourné vers lui, ouvert à lui, et qui avait été aussitôt comblé de sa bénédiction. « Je te bénirai, sois une bénédiction, lui avait dit Dieu. » Et Dieu l'appelait à une vocation universelle, faire en sorte que tous ses frères et sœurs en humanité reçoivent eux aussi cette bénédiction que Dieu ne cesse de vouloir communiquer à tous ses enfants. « Je te bénirai, sois une bénédiction, par toi se béniront toutes les familles de la terre. » Ainsi, ce qui est dit des relations entre Dieu et Abraham, et donc entre Dieu et Israël, le peuple élu, est appelé à s'étendre à tout homme. La relation entre Dieu et Israël devient ainsi un exemple particulier d'une vérité universelle, la relation que Dieu veut vivre avec tout homme. Lisons donc quelques textes de l'Ancien Testament, où Dieu apparaît comme un père, et notons à quel point la notion de création apparaît souvent. Dieu créateur d'Israël et père d'Israël, mais Dieu créateur aussi de tout homme, et donc père aussi de tout homme, créé à son image et ressemblance. Deutéronome 32, 6. Est-ce là ce que vous rendez au Seigneur, peuple insensé, dénué de sagesse. N'est-ce pas lui, ton père, qui t'a donné la vie, lui qui t'a fait et par qui tu subsistes? Isaïe 64, verset 7. Toi, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Malachie, chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un Père unique? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous perfides l'un envers l'autre? Et ce Dieu Père nous aime tous avec la tendresse d'une mère. Osée, chapitre 11, versets 3-4. Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je le prenais par les bras, et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leurs joues. Je m'inclinais vers lui et le faisais manger. Isaïe 66, 12, 13. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je fais couler vers eux la paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant la gloire des nations. Vous serez allaité. On vous portera sur la hanche. On vous caressera en vous tenant sur les genoux. Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. Isaïe 49, 13, 14. Sion avait dit: le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Et dans l'expression « montrer sa tendresse », le texte hébreu emploie le verbe « ra'am », de même famille que « re'em », dont le premier sens est « utérus », sein maternel, et donc « tendresse maternelle ». Dieu Père nous aime tous avec la tendresse d'une mère. C'est ce que dit encore le prophète Isaïe au chapitre 63. Regarde du ciel et vois depuis ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ta jalousie et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes tendresses maternelles, pour moi, se sont-elles contenues? Pourtant, tu es notre Père. Si Abraham ne nous a pas reconnus, si Israël ne se souvient plus de nous, toi, Seigneur, tu es notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Et le seul rêve de Dieu est que tous les hommes l'appellent Père, car c'est bien ce qu'il est déjà à leur égard. Jérémie 3, 19. Et moi qui m'étais dit: comment te placerai-je au rang des fils? Je te donnerai une terre de délices, l'héritage le plus précieux d'entre les nations. Je me disais: vous m'appellerez mon Père, et vous ne vous séparerez pas de moi. Mais hélas, l'homme créé libre, et il ne peut en être autrement dans l'amour, va mal utiliser sa liberté, et il va se détourner de cœur de son Dieu et Père. Mais lui, de son côté, n'a jamais cessé un seul instant d'être à son égard un Père plein de tendresse. Aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. L'amour n'est pas aimé, disait sainte Thérèse de Lisieux. Lui proposer instant après instant le pardon de toutes les fautes commises. Chercher à renouer et à renouer encore la relation rompue. ne lui témoignait envers et contre tout que de l'amour. C'est bien cela la miséricorde. Et c'est ainsi que Dieu aime tout homme sur cette terre. Nous lisons ainsi dans le livre de la Sagesse, chapitre 11, versets 23 à 24. Tu fais miséricorde à tous, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes, pour qu'ils se repentent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait. Car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Sagesse 15, 1. Oui, toi, notre Dieu, tu es bon et vrai, patient. Tu gouvernes tout avec miséricorde. C'est pourquoi saint Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens, « Montrez-vous bons et miséricordieux les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Tous membres d'une seule et même famille humaine, tous frères et sœurs, car tous créés par un seul et même Père, nous sommes tous invités à vivre la miséricorde les uns envers les autres. Ne devais-tu pas à ton tour faire miséricorde à ton compagnon, comme moi-même je t'avais fait miséricorde, dit le roi dans la parabole du serviteur impitoyable, Matthieu 18, 33. Si nous vivons ainsi, dans la miséricorde, les uns envers les autres, car nous sommes tous pécheurs, alors nous serons vraiment à l'image et ressemblance de Dieu, lui qui, jour après jour, ne cesse de nous bénir, de nous faire miséricorde, pour que nous puissions reprendre encore et encore avec lui le chemin de la plénitude de la vie et donc du seul vrai bonheur.